wah 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 wah.
Bienvenue à bord de SIDAventure, le magazine de prévention santé, réalisé par Yann et Isabelle.
Chaque jour, 8500 hommes, femmes et enfants meurent du sida. Le sida ne fait pas de distinction et tue chaque mois 260 000 d'entre nous. Faute de soins, d'information, de prévention, faute de moyens, 3 millions de vies s'éteignent chaque année. Les chiffres ne veulent-ils plus rien dire? Le sida existe toujours, et plus que jamais. Pour le vaincre, nous avons besoin de vous. Tous. Faites un don. Appelez le 110.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous venez d'entendre le spot télévisé du SIDAction 2007 que certains et certaines d'entre vous auront sans doute reconnu. Comme le thème retenu cette année pour le SIDAction, notre mot du jour sera « solidarité ».
SIDAventure aime le maudit.
Cette année encore, le SIDAction, association reconnue d'utilité publique, se mobilise pour informer le public sur les risques du VIH-SIDA et collecte des fonds qui serviront à développer et mettre en place des programmes de lutte contre le SIDA. La moitié de ces dons seront utilisés à la recherche. Quant à l'autre moitié, elle contribuera à l'aide aux malades et à la prévention. 3 journées d'animation sportive et culturelle, de collecte et de sensibilisation auront lieu dans toute la France et sur les médias les 23, 24 et 25 mars prochains. L'année précédente, grâce à vos dons, le SIDAction 2006 a obtenu 5,6 millions d'euros. En toute sécurité, vous pouvez faire un don par carte bancaire sur le site www.sidaction.org ou appeler le 110 jusqu'au 19 avril.
Mais qui mieux que les personnes contaminées eux-mêmes peuvent nous parler et nous présenter ce qu'est le quotidien avec la maladie, les projets avortés, un avenir incertain. Voici quelques témoignages recueillis lors du SIDAction 2005. Nous nous excusons par avance de la mauvaise qualité sonore.
J'ai traîné très longtemps dans le milieu de l'héroïne et c'est à travers ça que j'ai chopé cette maladie.
J'ai eu quelques symptômes de perte de connaissance qui ont amené à faire des analyses, et de proche en proche, ces analyses sont arrivées à une analyse sérologique VIH qui s'est révélée positive.
Le jour où je l'ai su, pendant une heure et demie, je suis resté avec mon médecin au bureau et pendant une heure et demie, il m'a parlé, mais je n'ai rien entendu à ce qu'il m'a dit. Hein. Je voyais. J'ai vu toute ma vie défiler en fait.
J'ai senti vraiment ma vie basculer. J'ai perdu toute mon insouciance. C'était 25 ans, c'était. J'avais prévu plein de choses pour ma vie, faire des enfants. Et là, d'un seul coup, pouf, tout est tombé.
J'ai vécu la perte de l'emploi, j'ai vécu le recul des amis, j'ai vécu un tas de choses de cet ordre, quoi. Et après, la maladie a pris le dessus. Ça a été les années d'hôpitaux, les premiers essais AZT, tout ça, j'ai tout vécu, quoi.
Je me suis retrouvé à peu près 8 fois en avis grave, donc en hospitalisation, en phase terminale, ce qu'on appelle phase terminale, où là on te prépare on te dit clairement que tu vas y rester, on prépare ta famille et tout. Donc je suis un peu un miraculé, voilà. D'ailleurs, dans un des services où ils me suivent depuis longtemps, ils m'appellent le miraculé.
Là, je vois que ça fait 2 ans, et au bout de 2 ans, je m'aperçois que je ne l'ai pas encaissé. Hein. Enfin, j'ai du mal à le. J'ai toujours du mal à le vivre, tout simplement.
J'ai refusé tout traitement pendant 10 ans, et suite à un zona et une pneumonie assez forte, j'ai décidé de prendre un traitement, quoi, histoire de stabiliser. Moi, maintenant, j'ai une charge virale indétectable, mais attention, hein, c'est pas simple, on est bien d'accord, c'est pas simple. Hein. Parce qu'il y a des jours où tu vas bien et il y a des jours où tu vas pas du tout. Quoi.
La trithérapie est arrivée à un moment extraordinaire puisque j'étais dans une période où j'étais en train de partir, j'étais pas vraiment en forme, j'étais même hospitalisée. Et donc c'était des essais thérapeutiques, hein, donc j'ai pu en bénéficier et par bonheur, je peux vous parler aujourd'hui, mais si j'avais pas pu bénéficier à ce moment-là de cette trithérapie, je serais pas là.
Je suis assez
inquiet et assez furieux quand je vois le nombre de la population qui dit « mais non, je ne fais pas attention, je ne prends pas de préservatif parce qu'il y a des médicaments ». Aujourd'hui, les médicaments qui existent sont des molécules qui aident à tenir le coup, à gérer certaines choses, mais ne soignent pas. Et en plus, le problème, c'est que ça veut dire qu'on est en traitement à vie, avec des conséquences qui sont dramatiques.
Des nouveaux contaminés, j'en rencontre à l'hôpital toutes les semaines, ça me fait halluciner. Ils se rendent pas compte, ils se rendent pas compte. On a trop dédramatisé la maladie, donc maintenant, ils sont là, ils croient qu'on prend un cachet le matin, un cachet le soir, que tout va bien. Voilà, puis quand ils ont la réalité en face, qu'ils te voient avec une perfusion, qu'ils voient, parce que faut voir à l'hôpital du jour ce qui passe. Hein. Alors là, ils se rendent compte, mais c'est trop tard. C'est trop tard.
Les grands projets, les châteaux en Espagne, non, tout ça, j'ai vraiment arrêté.
La semaine dernière, nous vous invitions à un voyage aux frontières de la vie en compagnie du père Gérard de Villers, ancien aumônier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et l'hôpital Rothschild de Paris. Lors de cette première étape, le père de Villers nous a parlé de sa remise en cause, de sa soif d'apprendre au contact des malades et d'être à leur école.
Nous le retrouvons pour la deuxième partie et avec lui, nous allons aborder plus particulièrement son rôle de médiateur.
Idéaux et débats.
Vous étiez un petit peu le médiateur entre le malade et le personnel soignant. Quels étaient réellement vos échanges avec ce personnel? Quel rôle vous aviez vraiment? Est-ce que vous avez un rôle de conseiller? Est-ce que votre voix était réellement entendue?
Vous savez, ces services étaient des services, à l'époque, très particuliers. C'est des services où la plupart des personnes, sauf des personnages comme moi, avaient à peu près le même âge, étaient tous vers la trentaine. Que ce soit les malades, majoritairement garçons, dans cet hôpital, nous sommes en centre-ville de Paris, que ce soit du côté du personnel soignant. Donc il y avait un partage de paroles, une compréhension qui est due aussi à une génération qui se parlait, etc. Bon, ça c'est une chose. Une autre, c'est que quand j'ai fait partie vraiment du service, au bout de 3 ans à peu près, tous les mois il y avait une rencontre de tous ceux qui voulaient, des soignants, pour échanger sur les différentes relations que nous avions et les cas difficiles, les cas à la limite de l'humain, par la souffrance. Et c'était des lieux de partage très très forts, où chacun disait profondément ce qu'il pensait, ce qu'il vivait avec les uns et les autres. Mais il y avait aussi, bien sûr, tous les jours, pratiquement, j'allais dans la salle des soignants. Et là, on parlait, on prenait un café ou pas, mais on échangeait énormément, dans les couloirs également, hein, avec les familles, les amis, les proches, beaucoup d'échanges également. Alors, mon rôle là-dedans, il était parfois plutôt de poser une question pour inviter l'autre à aller plus loin dans ses propres choix, dans sa propre décision, mais n'était jamais de me mettre à sa place, hein, d'avoir une parole qui serait une parole qui mettrait en rapport les uns avec les autres, hein, de médiateur, je crois que c'est pas le mot. Hein. Parfois j'ai été, à cause de ma fonction, à cause de mon âge aussi peut-être, celui à qui on pouvait parler facilement de bien des choses, et le fait que plusieurs personnes me parlaient ensemble d'une chose, d'une réalité un peu difficile, les faisaient eux-mêmes arriver à leurs propres paroles. C'est ce que je désirais toujours.
Donc vous rejetez le mot de médiateur, mais vous êtes le passeur de paroles ou l'accoucheur de paroles. Moi, j'ai souvenir, par exemple, d'un passage de votre livre où la maman, vous l'emmenez prendre un café avec ses filles, et elle tourne autour de la table et elle parle, c'est un ouragan. Et lorsque son fils décède, elle vous demande quand même de faire une cérémonie. Quel rapport vous avez avec la famille? Je ne suis pas très clair.
Vous savez, je vous remercie de dire qu'on n'est pas forcément clair dans nos questions comme dans les mots qu'on utilise ce soir, parce que tout simplement la réalité est difficile. La réalité est difficile. Et trouver les mots pour échanger entre nous n'est pas quelque chose de simple. Nous ne parlons pas de sacs de pommes de terre ou de carottes, hein. Nous parlons de personnes et de personnes très fragilisées, y compris les personnels soignants, etc. Mais je voudrais dire d'abord quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est que je ne rencontre jamais la souffrance, comme je ne rencontre jamais l'homosexualité, comme je rencontre jamais la drogue. Je rencontre des personnes qui souffrent. Je rencontre des personnes qui vivent de façon très différente les unes des autres leur histoire dans l'homosexualité. Des personnes qui vivent très différemment les unes des autres leur rapport à la drogue. Donc je rencontre tout cela. Suis-je un accoucheur de paroles ? Je ne crois pas. Je suis simplement celui qui voudrait favoriser par son attitude, par ses mots, par ses questionnements parfois que j'ose faire, favoriser le fait que quelqu'un naisse à sa parole, naisse à sa propre vie, à ce qu'il peut vivre encore. Je pars toujours de ce qui est en bonne santé chez quelqu'un, comme le médecin d'ailleurs. Je pars de ce qui est en bonne santé, de ce qui reste en bonne santé, pour qu'il trouve un peu plus de vie. Je vais toujours, mon souci, c'est toujours de partir de là. Et non, je n'apporte pas grand-chose, mais ce que je suis, ce que j'essaie d'être, mon attitude voudrait, c'est mon désir, favoriser la parole, l'expression de l'autre et les choix des autres quand il en a à en faire. Mais justement, cette maman dont vous me parliez, qui vient chez moi et qui a vécu pendant des années avec sa fille malade, et sa fille vient de mourir. C'était à l'hôpital Rothschild. Elle vient chez moi pour préparer la célébration autour du corps de sa fille, hein, les obsèques de sa fille. Et moi, vous savez, on n'est pas fiers dans ces moments-là, hein, et d'autant plus que je la connaissais très très peu dans ce cas précis. Alors j'avais deux cahiers qui avaient les mêmes textes, et je donnais un cahier à la famille et un pour moi, et on essayait de feuilleter les pages pour voir sur quel texte on pouvait s'arrêter, qui correspondait le mieux, etc. Et tout d'un coup, parce que cette femme a à peine regardé mes textes, mais elle s'est levée, et puis elle a fait le tour de la table où j'étais, hein, avec sa sœur à elle d'ailleurs. Elle a fait le tour de la table pendant un quart d'heure, mais qui m'ont été longs. Et elle a commencé à dire toute la souffrance, toute sa souffrance, toute la souffrance du service, tout ce qu'elle voyait dans les couloirs, ses corps amaigris, ses corps touchés par le Kaposi et d'autres choses. Enfin, vous savez, c'est des choses lourdes, et parfois à la souffrance de quelqu'un s'ajoute la souffrance des voisins, de ce qui se passe dans le service, enfin, ce qui alourdit encore. Donc, elle me parle de la nourriture qui était infecte, elle me parle du médecin qui fait pas attention à elle, elle me parle des soins. C'est une personne qui était fatiguée, elle avait le droit de tout dire ça. Elle parle des soins pas toujours faits avec délicatesse, elle parle d'un tas de choses, etc., qu'il fallait toujours attendre, qu'elle était patiente dans tous les sens du mot, et sa fille. Et ben, j'écoute ça, et puis à un moment, elle se rassoit. Alors je mets ma main sur la sienne et je lui dis « Et avec tout ça, vous croyez que je peux demain faire quelque chose avec vous ?» Elle m'a regardé, elle m'a mis son doigt devant moi, elle m'a dit « Oui !» À ce moment-là, j'ai compris que je devais faire, ce qu'elle attendait de moi, que je devais accomplir ma mission. J'étais fait aussi pour ça. Et je ne devais pas me débiner à ce moment-là. Mais je crois que parce qu'elle a pu sortir tout ce qu'elle avait dans le cœur, toute sa souffrance, une partie en tous les cas, de sa grande souffrance, eh bien, le lendemain, je l'ai rencontrée tout à fait apaisée. Apaisée, elle m'a présenté les membres de sa famille, etc. Comme si, après la tempête, eh bien, après les nuages, le soleil était revenu, en tous les cas, un peu, dans une partie de son cœur. Et on a pu vivre une célébration qui prenait en compte tout le poids de la réalité, mais qui, en même temps, où pouvait s'inscrire un peu de paix.
Alors, un de vos amis, Jean, a dit de vous cette phrase, je cite, « Gérard est un artiste, du prêt-à-porter, il sait faire du sur-mesure. » Est-ce que vous vous retrouvez dans cette définition de vous ?
Il est bien bon, ce Jean. Il est bien bon, je fais ce que je peux. Mais c'était ça, c'est une autre, j'allais dire, une autre histoire, un autre chemin, à la fois toujours de douleur, de souffrance, et à la fois un chemin d'espoir. Ce garçon avait, je l'ai connu, il sortait de la réanimation après un gros problème, bon, très bien. Et puis, c'est son médecin qui m'avait proposé d'aller le voir parce qu'il avait des questions sur la religion, sur Dieu, sur etc. Alors, un médecin m'a dit, Gérard, écoute, il n'y a que toi certainement qui peut faire ça. Alors, bon, alors je suis donc, me suis permis d'aller parler à ce Jean, qui m'a très bien reçu, qui m'a dit qu'il trouvait la religion catholique un petit peu dure et qu'il préférait la protestante parce qu'elle était moins rigide et tout ça. Ben, je dis, mais très bien, j'écoutais. Et ensuite, il m'a parlé d'une bague qu'il avait commandée, un joaillier. Une bague, j'ai cru qu'il s'agissait d'une bague qui signifiait lui son union avec son ami, quoi. Mais c'était une bague un peu comme une bague d'évêque, avec oh là là, une grosse améthyste ou je sais pas quoi, et avec du lierre qui venait s'agriffer, s'accrocher à cette perle-là, hein, à cette pierre précieuse. Et il m'a demandé de bénir cette bague. Et pourquoi pas ? Il me demande de la bénir dans la chapelle de l'hôpital et je lui dis, écoute, c'est quand même très proche de ton lieu de souffrance, c'est très proche pour les quelques personnes que tu aimes bien, ta famille, ton médecin, le joaillier lui-même et ses enfants. Peut-être que ce serait aussi bien chez toi. Et finalement, le lendemain, je reviens le voir, il m'a dit, j'ai trouvé. Et il avait désiré que ça se fasse dans la chapelle des Saints Anges, dans l'église Saint-Sulpice, sous la fameuse fresque de la croix. Et donc, on arrive pour cette cérémonie. J'avais été voir le curé, j'avais souhaité, de fait, ça a eu lieu, qu'il y ait un organiste qui vienne au début, à la fin, jouer un peu d'orgue dans cette église de Paris. Et c'est là qu'à la fin de la célébration, il sortait au bras de son ami, d'autant plus qu'il était devenu aveugle par la maladie. Et c'est là qu'il a dit cette phrase. « Bon, elle vaut ce qu'elle vaut. » Je crois que j'ai fait ce que j'ai pu, et puis lui, il a trouvé ça bien, ajusté à lui. Alors, ce que je fais du prêt-à-porter ou du sur-mesure, je crois que l'important, c'est que je fasse quelque chose, que je favorise en tous les cas quelque chose qui apaise et qui aide à vivre quelqu'un.
Ceci dit, on a l'impression que par cette phrase, Jean a résumé un petit peu ce que beaucoup ont pu penser. En tout cas, c'est ce qui ressort des témoignages que vous avez retranscrits dans le livre. C'est à chaque fois de réussir à faire du sur-mesure pour chaque personne que vous avez rencontrée.
Le sida se transmet par le sperme et par le sang. L'information se transmet par la bouche, par les yeux et les oreilles. La solidarité se transmet par le cœur. La solidarité est contagieuse et ça, c'est très bien.
Vous pouvez faire vos dons sur le site du SIDAction, c'est www.sidaction.org. C'est un site sécurisé. Ou alors appelez le 110 dès maintenant jusqu'au 19 avril.
Si d'aventure vous nous avez aimé, n'hésitez pas à nous rejoindre jeudi prochain à la même heure. En attendant, vous pourrez réécouter nos émissions sur le blog sidaventure.over-blog.com et profiter de votre passage pour nous laisser vos commentaires. Et d'ici là, portez-vous bien.
Wah 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 w